DJ Academy, le mag, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ animés par Stéphane Chambord. DJ Academy, le mag.
Bienvenue pour DJ Academy, un magazine musical où nous allons faire comme un tango créatif. Un pas en arrière, deux pas en avant, car nous plongerons dans le passé pour mieux sauter dans le futur, car c'est en s'inspirant des rythmes d'hier que nous composons les mélodies de demain. Première étape, plutôt dans le présent, nous allons électriser l'ambiance avec les nouveautés électro de la semaine, des sons frais qui vous promettent de faire vibrer vos enceintes. Ensuite, préparez-vous à être charmé par l'interview exclusive de Talita Otovic, l'une des révélations inouïes électro du printemps de Bourges 2024. Elle nous parlera de son parcours, de ses inspirations et de ses futurs projets. Et pour finir en beauté, eh bien nous rendrons hommage à un classique indémodable qui a fait danser des générations, Disco's Revenge par Gusto, un morceau qui nous prouve que la musique c'est un éternel recommencement, un petit peu comme notre tango d'aujourd'hui. Alors, chaussez vos meilleurs souliers de danse, nous voici prêts à vous faire tournoyer d'excitation. Bienvenue à vous!
We'll be right back.
Quand l'Orient rencontre l'Occident, quand la tradition se fond dans la modernité, vous venez de vous laisser emporter par les rythmes envoûtants de Stranger par Shkoun. Shkoun, un duo germano-syrien qui tisse des liens entre l'électronica et des sonorités orientales avec une maîtrise hors du commun, ce morceau était extrait de leur album Masraya. Alors que Shkoun nous a emmenés dans un voyage à travers des paysages sonores orientaux, Errance, lui, va nous guider à travers les sons organiques de la nature. Errance, c'est le projet solo de Gabriel Gagnon, un producteur, réalisateur et compositeur canadien qui nous offre une expression musicale née d'une introspection profonde et d'une connexion intime à la nature. Le morceau s'appelle Guidance et c'est en nouveauté dans DJ Academy. Thank you. Ces enchaînements de nouveautés nous réservent toujours leur petit lot de surprises, un petit peu comme cette transition électrisante où nous allons fusionner deux univers uniques. Il y avait à l'instant d'un côté Rome avec son morceau Renaissance, un titre qui évoque la fraîcheur et la complexité, la légèreté et la puissance tout en restant ancré dans une tradition de fermentation longue et de distillation méticuleuse. Et puis de l'autre, il va y avoir Racom qui lui va nous plonger dans une introspection audacieuse avec Your Fault, un morceau qui résonne comme un écho moderne aux rythmes électroniques profonds. On s'écoute Racom, c'est un extrait de son EP False Claims. Cette production sortira dans les bacs à la fin du mois d'avril. Vous venez d'écouter Flashback, un morceau du duo Désinformant, et cet extrait de leur EP Raving, et ça s'écrit R-E-V-I-N-G.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Notre invitée cette semaine est une musicienne qui figurera parmi les Inouïs du Printemps de Bourges 2024. Elle va représenter la région d'Île-de-France. Elle s'appelle Talita Otovic. Bonsoir à toi.
Bonsoir Stéphane.
Ben merci d'avoir accepté l'invitation. Là, on enregistre l'émission. Nous sommes le 7 avril 2024. Je t'imagine déjà préparé justement cette prestation pour les Inuits du Printemps de Bourges. Ça arrive à grands pas pour le moment. Dans quel état d'esprit es-tu ?
Bah, j'ai surtout hâte. Je suis pas encore stressée à mon maximum. Je pense que ça arrivera un peu avant la prestation. Mais pour l'instant, j'ai surtout hâte de jouer ce nouveau live que j'ai pas joué à beaucoup d'endroits encore, donc de le faire découvrir à d'autres endroits, c'est toujours une bonne expérience.
Là, on va découvrir ton univers musical, qui est un pied dans le présent et un pied dans le passé. On va commencer par découvrir Summer of Love, c'est l'une de tes productions disponibles depuis ta page Bandcamp. Notre invitée s'appelle Talita Otovic et on se retrouve avec elle tout de suite après, c'est l'interview de la semaine.
DJ Academy, le mag, l'interview. Academy, le mag, l'interview.
Dans l'histoire des musiques électroniques, le Summer of Love renvoie au Royaume-Uni et aux étés 1988 et 1989. Là apparaissaient l'acid house et la culture rave. Summer of Love, c'est le titre du morceau qu'on vient de s'écouter à l'instant, un morceau de notre invitée Talita Otovic, inouïe du Printemps de Bourges électro en 2024. Et là, je me tourne vers toi, Talita, avoir nommé ce morceau Summer of Love. Est-ce que c'était ta manière de rendre hommage à cette période ?
C'était un peu un clin d'œil à cette époque, surtout quand j'ai donné le titre. Il est un peu paru à l'été, donc vu que j'étais un peu dans une humeur, une émotion un peu plus légère, ça faisait un peu sens avec les émotions qui me traversaient. Et après, c'est aussi devenu un clin d'œil à un peu toute cette scène rave et juste l'affranchissement par la danse, par la fête, par l'été où on retrouve ses amis et où on retrouve de nouvelles personnes sur le chemin.
Orantan, on a déjà pu un petit peu parler de tes influences musicales. On va en parler un petit peu plus tard là dans l'interview. Particularité de ton projet, c'est que tu balayes plusieurs époques. Il y a des clins d'œil aux années 80, époque New Wave. On peut voir des clins d'œil au début de la techno, mais aussi au début de la tribe. Maintenant, si on doit vraiment remonter sur ta propre histoire, quel a été ton premier contact avec la musique ?
Alors, mon premier contact avec la musique, mais dont je me souvenais pas, il m'a été raconté il n'y a pas si longtemps que ça par ma mère. Et mon premier contact, c'était, je crois, à l'anniversaire de mes 4 ans, quand elle m'a emmené au magasin choisir un jouet et que je lui ai pointé un lecteur cassette que je voulais absolument. Et qu'elle m'a raconté ensuite que j'étais allée du coup à la garderie pour jouer des cassettes pour mes amis. Donc je pense que ouais, c'est mon premier contact avec la musique.
Donc déjà une première approche de DJ dès la plus tendre enfance.
C'est ça.
Ensuite, bah, y a l'instruction musicale, l'éducation. On peut se demander si tu as suivi des cours de solfège, si tu as été une élève du conservatoire. Quel a été ton contact avec l'apprentissage de la musique proprement dite ?
Alors, j'ai pas eu de formation de conservatoire. Mais j'ai découvert un peu sur les internets, un peu sur le vieil ordinateur de la famille. Je me souviens avoir installé Virtual DJ et je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait exactement, mais j'essayais de faire des sortes de mash-up avec des musiques, des edits. Après, j'avais téléchargé aussi Audacity, donc j'essayais de mettre des tracks les unes sur les autres, voir ce que ça donnait. Bien sûr, j'avais pas trop une sensibilité ni au BPM, ni à tous ces outils parce que j'étais très jeune. Mais c'est comme ça que j'avais commencé à trifouiller et c'est un peu plus tard que là je suis passée sur Logic et que j'ai trifouillé d'autres choses, puis sur Ableton. Mais le début c'était ouais, Virtual DJ et Audacity sur le vieux Windows familial du salon quoi.
Donc du découpage, du montage informatique, pas mal d'expérimentation.
Ouais.
Et cette patte justement expérimentale, on peut la retrouver aujourd'hui tout au long de tes productions. Mais ça, on va pouvoir l'entendre directement en musique. La découverte de la musique électronique, c'est venu quand ? Quel a été le déclic ? Et c'était quoi tes premiers héros de l'époque ?
Je pense que ça s'est fait beaucoup en chinant. Enfin, musique électronique, quand j'étais toute petite, c'était beaucoup MTV. À l'époque, ils avaient une programmation très éclectique. Donc ça a été beaucoup le sampling par le hip-hop, des trucs comme Missy Elliott, par exemple. Et aussi Moby, donc les choses qui tournaient en boucle à l'époque, et je me souviens être juste devant la télé en mode waouh, c'est trop chouette, mais j'avais pas encore une compréhension de ce qu'était vraiment la musique ni la musique électronique. Mais je pense que ça a été des premières influences qui se retrouvent peut-être un peu dans mon travail.
Là, on va se faire une coupure musicale et on va évoquer une autre période de l'histoire de la musique électronique, donc de la fin des années 80, là on va aller à la fin des années 90, au début des années 2000, avec Divergent Pattern Derealized Ballad. Un morceau aux inspirations tribe, c'est plutôt minimal, c'est assez radical. On peut également parler de production mentale. Est-ce que ce morceau est un hommage aux Anglais des Spiral Tribe ?
Il est très mental, il est assez radical aussi.
Ouais. Quand j'ai composé, c'était un début de live, mais qui du coup n'était pas du tout dans la veine des lives un peu plus gabber, XP que je peux jouer actuellement. Mais qui du coup ouais, faisait 10-12 minutes et que du coup j'ai enregistré et qui initialement est paru sur une compile de Ferris Records, la première compile de Ferris Records qui a été créée il y a, je dirais, presque un an maintenant par Lou Foro et Jennifer Cardini. Et du coup l'intention Ouais, il y a un peu de tribe dedans. C'était d'avoir quelque chose d'un peu plus mental, une sorte de balade un peu perturbée par plein de percussions. Je pense que c'était un peu ça l'idée, c'était qu'il y ait quelque chose d'un peu troublant et un peu psychique. Donc ouais, peut-être qu'on retrouve un peu la spirale, comme tu dis.
La spirale tribe. C'est un morceau qui surprend, mais qui reste plutôt cohérent dans l'ensemble de ton univers. On va donc écouter Divergent Pattern d'Erelize Ballade, morceau de notre invitée Talita Otovic, et on se retrouve avec elle tout de suite après dans DJ Academy.
DJ Academy, le mag, l'interview. Thank you. Academy, le mag, l'interview.
Divergent Pattern Derealized Ballad. Ce morceau est signé de notre invitée Talita Otovic. Elle est actuellement en liaison par internet avec nous. Est-ce que tu peux nous indiquer de quel EP est extrait ce morceau ?
Ce morceau-là, il est issu d'un EP qui s'appelle Altair, qui est paru en décembre dernier sur le label Ferris Records. Et initialement, il est aussi sorti en physique avec une maison d'édition basée à Turin qui s'appelle Witty Books. Et du coup, l'EP est aussi sorti en cassette, accompagné d'un livre avec les images de Zoé Chauvet. Et un peu plus tard, vu qu'il n'avait pas de distribution sur les plateformes, on a travaillé avec Ferris pour le mettre au monde, et Lou Foro a travaillé sur tous les visuels et les artworks de l'album.
Quel lien, toi, tu vois entre ta musique et le début de la culture rave ?
Je pense entre la culture rave et ma musique, c'est surtout la volonté d'affranchissement par la musique, par les espaces. La musique, je pense, ça m'a beaucoup aidé à juste mettre en forme certaines émotions et certaines choses. Et du coup, je pense que dans la culture rave, il y a aussi une volonté d'exprimer des émotions, de prendre des espaces pour que les gens puissent exprimer leurs émotions, que ce soit par l'écoute du son, par la danse, par retrouver d'autres personnes. Donc je pense que c'est peut-être là le parallèle entre ma production musicale et toute cette culture de la fête et de la fête libre, entre guillemets.
Donc là, tu me décris l'aspect convivial des rassemblements techno. Après, si je dois me concentrer vraiment sur les émotions, le propre de ces musiques-là, c'était de traduire un sentiment de mélancolie et de nostalgie. J'ai pas retrouvé cette vibe chez toi. Toi, c'est quoi le type d'émotion que tu aimes retranscrire en musique ?
Je pense que ça va juste être les émotions, un peu réussir à mettre de la clarté dans ma confusion. Généralement, quand j'ouvre le logiciel ou quand je vais commencer à sampler quelque chose, ça peut dépendre. Sur les tracks qu'on a écoutées un peu au début, elles étaient un peu uplifting, des tracks trance. La dernière qu'on a écoutée, elle était un peu plus mystique, on va dire. Donc je pense c'est vraiment plein d'émotions qui me traversent. Je dirais pas qu'il y en a forcément une à chaque fois. Je pense vraiment que toutes mes productions et mes projets, ils sont juste le témoin de plein d'états dans lesquels je peux être, qu'ils soient bons comme mauvais.
Donc on peut parler de catharsis.
Exact.
Parlons un petit peu secret de fabrication. Ton home studio aujourd'hui se compose de quoi ? Est-ce que tu es d'une mouse productrice ou aujourd'hui est-ce que tu travailles avec des machines ?
Avec les deux. Crossover des deux. J'ai un sampler qui est un peu la tête des choses que je fais, qui est le sampler de Electron, la Digitact, et celui avec lequel je joue des lives. Après, j'ai aussi des drum machines, donc une machine drum, un peu une vieille machine old school. Et après, d'autres machines comme une TB3. J'aime beaucoup utiliser des micros aussi, juste des field recording pour avoir des textures. Donc je dirais ouais, essentiellement sampler, quelques synthés. Aussi un peu typé, genre un Korg MS-2000 qui est plutôt typé old school, pas forcément des trucs hyper récents, mais ouais, ça se compose de ça. Et après d'autres bizarreries. Un micro que j'aime bien aussi, c'est un micro de Soma qui s'appelle le Ether et qui va capter des fréquences électromagnétiques, donc ça fait sorte des bruits de radio cassés ou des choses comme ça. Donc j'ai plein d'items autant récents qu'anciens et d'autres petites curiosités qui me permettent de mettre des textures dans mes productions aussi.
Donc c'est de la musique à écouter au casque. J'imagine qu'il doit y avoir plein de sons fantômes finalement. Et quel est l'outil de production dont tu ne pourrais plus te passer ?
La Digitact, de loin.
Et c'est quoi la Digitact ? Parce que, à titre perso, ça m'évoquerait.
La Digitact, c'est un sampler séquenceur de Electron, du coup dans lequel... Moi, je viens importer plein de samples que j'ai édités ou que je chope à droite à gauche. C'est un peu un mélange. Et du coup, il me permet de venir couper dans ces samples-là, créer des mélodies avec, d'envoyer des percussions aussi. Donc généralement, sur mes lives, j'ai plutôt une approche minimaliste, c'est-à-dire que je fais mon live que avec cette machine-ci et que je vais pas produire des choses dans un logiciel ou en amont, mais je vais éditer peut-être quelques petites parties, mais sinon toute la composition elle se fait vraiment dans cette machine-ci. Donc c'est vraiment mon to go en termes de machine.
Là on va se faire une coupure musicale avec un morceau plutôt indus, donc là c'est encore une autre facette de tout ton savoir-faire. Le morceau s'appelle Trou Noir, c'est ici un featuring avec Polo Gadbaz. Elle s'appelle Talita Otovic et c'est notre invitée cette semaine dans DJ Academy.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Imperceptible s'est détachée du tout et s'est mise à bouger. Elle a tourné lentement jusqu'à prendre substance, puis tourné à nouveau jusqu'à devenir invisible, puis tourné encore jusqu'à devenir une particule, puis un quark, puis un proton. Jusqu'au moment de la division de la toute dernière cellule, cette chose imperceptible et curieuse, cette chose mouvante et sombre, dont nous sommes chacun les dépositaires, les gardes et la conséquence. Cette chose qui a décidé de nous faire vivre, nous fera mourir. Nous sommes tous sous-produits de la soupe primordiale. Quand nous marchons et que nous rencontrons quelqu'un d'autre, et que nous reconnaissons cet autre comme notre semblable, nous nous approchons un peu plus près du sens de la vie. Malheureusement, la vie n'a pas à répondre de ton existence. La tienne se déroule à l'extérieur de la trajectoire des planètes. Il faut croire que tu es né en dehors de tous les champs gravitationnels, de tous les espaces affines, de toutes les singularités. Tu es ton propre trou noir. Tu es ton propre fardeau. C'est dommage pour toi.
Titre du morceau Trou Noir, c'est un morceau de notre invité Talita Otovic. D'ailleurs, c'est pas un blaze, hein. C'est ton vrai nom et ton vrai prénom. C'était plus simple finalement.
Bah, j'ai essayé de trouver d'autres noms, mais au final, celui-ci est déjà convenable, je pense. Donc après moult essais, je suis juste revenue à mon vrai nom et mon vrai prénom.
On a parlé de ta découverte de la musique électronique et en grandissant, comme tout le monde, t'as fait des études. Et là, tu es parti du côté de l'art déco. Et ce qu'on peut se demander, c'est comment les principes des arts décoratifs se retrouvent dans ta musique électronique.
C'est assez drôle parce que quand moi j'étais en études aux arts décoratifs, qui est une école d'art avec bon plein de secteurs, j'ai étudié le design objet. C'est souvent un sujet de moquerie de gens qui me disent « Non mais attends, t'étais designer objet avant et maintenant tu fais juste de la musique. » Je pense que ce qui se retrouve, c'est la manière de structurer des idées. Là où ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette éducation-là, c'est de réussir à avoir une idée de base, lui donner des formes, de rechercher jusqu'à arriver à une production finale. Et en soi, que ça soit dans n'importe quelle production de pièces, de mobilier ou d'une track, je pense que ça m'a donné juste un bon raisonnement, un bon cheminement à suivre pour essayer d'arriver au bout de mes idées.
Alors j'ai une question qui va être un peu technique et qu'il va falloir essayer de vulgariser. Est-ce qu'il y a des techniques ou des motifs d'art décoratif que tu as pu intégrer dans tes compositions ? Est-ce qu'on peut vraiment dresser des parallèles entre les deux disciplines ?
Je pense qu'on peut dresser un parallèle de loin. Après, dans certaines productions, moi, au cours de ma scolarité, je me suis un peu affranchie au fur et à mesure du designer pour aller vers des pratiques un peu plus de vidéos. Je faisais beaucoup de documentaires, donc des installations vidéo. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à comment le son allait interagir avec la vidéo, comment la vidéo allait interagir avec les gens dans un espace. Donc je pense que sur ce point de vue-là, ça m'a sûrement beaucoup aidé à structurer même peut-être mes lives, à structurer mes morceaux. Donc je pense que sur ce point de vue, ça a quand même été une grande aide.
Donc la technologie, elle a vraiment influencé ton processus créatif.
Ouais, à fond.
On va parler un petit peu poésie, puisqu'on a écouté ce morceau, Trou Noir, un morceau parlé par Paolo Gattabase. Est-ce que tu peux nous présenter ce musicien qui, je crois, est un ami de longue date ?
Paolo est donc un ami de longue date, comme tu dis, avec lequel on a commencé à échanger autour de sujets, un peu d'émotions, de choses sur lesquelles, un peu des sortes des doutes métaphysiques qu'on peut avoir, et qu'ensuite j'ai retrouvé un peu dans des contextes de performance, de fête, et de là c'est lié à une collaboration qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. On a un duo ensemble qui s'appelle Otto et Gata, où on performe, et du coup Paolo apparaît souvent sur certains de mes morceaux, dont celui-ci qui est une réédition en fait d'un son de mon premier projet. Il y avait déjà ce texte de Paolo dans mon premier EP, et un peu plus tard je voulais l'intégrer dans mon live, donc du coup j'ai fait cette édite là qu'on a appelé Trou Noir, et du coup il est un peu le fruit de notre évolution commune, donc Paolo dans l'écriture et moi dans la musique.
Y a-t-il un poète ou un style poétique qui vous touche particulièrement, vous deux ?
Je crois qu'on est tous les deux très influencés par juste des choses qu'on va entendre ou des discussions qu'on va avoir. Paolo est plus calé que moi sur l'écriture, la poésie, mais je pense que tout ce qu'on apprécie, c'est du texte et des poésies qui sont un peu inspirées de juste la vie et l'existence de manière générale.
Et la poésie yougoslave, elle intervient également dans ton processus créatif ou pas ?
Alors, c'est plus l'aspect musical. Ma mère, elle a une meilleure connaissance de la poésie yougoslave, et c'est quelque chose qu'elle appréciait beaucoup. Donc, quelque part, c'est retrouvé aussi au sein de mes projets. J'ai pas encore utilisé vraiment, je pense... J'utilise souvent des samples d'anciennes chansons yougo. Donc, c'est vrai que la texture, on va dire, de ce langage-là et de ces dialectes, c'est quelque chose qui va m'inspirer beaucoup. Pas uniquement la poésie, mais en tout cas la texture, le parler et tous les instruments qui vont autour et les manières de composer, c'est des choses qui m'influencent aussi beaucoup et que j'essaie d'intégrer dans mes lives.
On va rester en Europe et on va partir de la Yougoslavie pour aller jusqu'en Belgique avec ce morceau Before I Die, I Want to Live, un morceau trance, coloré, qui peut rappeler l'âge d'or du label Bonsai Records. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et est-ce que pour toi, il y avait volonté de rendre hommage à cette période-là et à ce label précisément, Bonsai Records ?
Bah, peut-être qu'après coup, ouais, cet aspect-là, ravey, old school, se retrouve dedans. Je pense que quand je compose les morceaux, il n'y a jamais forcément une référence directe, mais vu que c'est des choses qui ont infusé dans ma tête, fatalement, ça va se retrouver. Et c'est vrai que quand je traînais un peu plus tôt dans les internets, trouver des compiles comme Bonsai, c'était vraiment une grosse inspiration.
Les morceaux s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Hein, c'est un petit peu comme une boîte de Quality Street, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc là, de la trance acidulée avec Talita Otovic, et le morceau s'appelle Before I Die, I Want to Live. Et on poursuit cette interview tout de suite après dans DJ Academy.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Before I Die, I Want to Live, et c'est une production de notre invité Talita Otovic, un morceau qui est un véritable petit déluge de synthétiseurs. T'en as beaucoup des synthés dans ton home studio ou pas du tout? Ou alors c'était uniquement des VST et des machines virtuelles pour ce morceau?
Je crois que c'était mélangé, j'essaie de me souvenir, mais je crois que c'est mélangé depuis que j'ai un peu des machines, j'essaie de mélanger des VST et des choses tangibles, des vrais synthés. J'ai pas énormément de synthés. J'espère en avoir plus, un peu comme toute personne qui commence à acheter son premier synthé et qui en veut 100. Donc c'est ce que tu peux me souhaiter, mais en tout cas, c'est un mélange des deux.
Depuis le début de l'interview, on l'a compris, tu es une slasheuse, donc musicienne slash art décoratrice. On va rajouter un autre slash, et là, on va parler d'ésotérisme. Alors, je sais pas trop comment le présenter. Ton premier disque avait pour titre Arcane Majeur. Et là, ça évoque la cartomancie, ça renforce le côté mystique de l'ensemble de tes productions. D'après toi, comment l'ésotérisme s'infiltre dans ton processus créatif ?
Alors, je dirais qu'au-delà de forcément un ésotérisme, je pense que c'est un questionnement sur les systèmes de pensée et les sortes de symboles que chacun peut retrouver autour de soi et la manière dont il les interprète. Ce qui était intéressant sur ce premier projet, c'était de me dire que je trouvais un système de réflexion et de symboles pour représenter un peu des sentiments. Et en soi, je pense que toutes mes musiques, j'ai un peu cette envie-là qu'elles représentent des sentiments et que genre, soit des choses qui se révèlent un peu chez les gens en les écoutant, comme tu disais plus tôt, soit la nostalgie, soit un grand bonheur, soit une grande confusion. Donc je pense qu'au-delà de cet aspect un peu mystique, il y a simplement trouver des symboles dans les choses qui nous entourent.
Donc t'es pas du tout branché voyance.
C'est plus trop d'actualité. C'est quelque chose qui l'était un peu plus à l'époque, mais maintenant un peu moins.
Donc c'est plus clairvoyant que voyant.
Ouais, c'est plutôt clairvoyant. Entre-temps, j'ai totalement délaissé ces systèmes-là et je sais pas si j'en ai trouvé exactement d'autres, mais en tout cas c'est un peu un parcours et ces arcanes, elles étaient un peu témoins des premières idées que j'essayais de mettre en place, mais maintenant j'ai d'autres systèmes de pensée, je pense.
L'utilisation des arcanes, de mémoire, je l'ai déjà vu exploité dans l'industrie du luxe au travers d'une collection de parfums de Dolce & Gabbana. Et point commun qu'on peut faire entre l'industrie du luxe et la musique, eh bien, c'est la synchro. Que ce soit pour l'automobile et la cosmétique, les musiques électroniques utilisées ont toujours cette froideur et cette classe en même temps. Mais l'univers de la pub n'est pas le seul domaine où les musiciens de musique électronique sont sollicités. Parfois ça peut être pour une installation sonore, parfois on peut leur demander une création pour un défilé de mode, un spectacle de danse contemporaine, une pièce de théâtre. Dans ton cas, Talita Otovic, est-ce que tu as déjà été sollicitée en ce sens? Et si oui, pour quel type de projet?
Ouais, à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, là, comme je t'en parlais un peu, j'avais commencé à réaliser de la vidéo, des documentaires. Donc c'est là aussi où je me suis pas mal intéressée à l'aspect narratif des productions sonores. Et du coup, à côté de ça, à côté de mon arc un peu club, rave, je travaille aussi avec pas mal d'artistes sur leur plateau pour des enregistrements, donc en tant qu'ingé son pour enregistrer leur performance, leurs pièces vidéo, mais aussi à la composition. Donc j'ai déjà composé pour de la performance, pour des pièces vidéo, pour un défilé là plus récemment. Donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de juste mettre en son et en narration plein d'ambiance et pas uniquement des clubs.
Par rapport à toutes les scènes que tu as pu fouler, par rapport à toutes tes expériences professionnelles, laquelle aurait été la plus mémorable pour toi?
Ah, c'est encore difficile à choisir. Je pense que qu'en évoluant, je reste quand même un gros rat de studio. Donc quelque part, je serais toujours bien dans le studio à trifouiller des choses, mais à la fois l'euphorie un peu du live et d'avoir des gens autour se contrebalance assez bien. Donc je saurais pas te donner un choix net, mais en tout cas réussir à trouver un équilibre entre les prestations à l'extérieur et aller sur des tournages ou aller en studio, c'est un peu ce que j'aimerais viser à terme.
Et par rapport à toutes les casquettes que tu peux porter aujourd'hui, par rapport à tes projets musicaux et artistiques en général, comment est-ce que tu parviens à garder un équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Parce que ça, c'est important pour le bien-être aussi de savoir au bout d'un moment poser des limites.
À fond, bah, c'est assez compliqué. Je pense que c'est un peu l'apprentissage que tu fais plus ou moins douloureusement quand t'es un ou une jeune artiste, de réussir à poser des limites entre ton travail, ton entourage. Mais je pense que de manière générale, c'est quand même s'entourer de personnes qui vont avoir les mêmes questionnements que toi sur ces choses-là, et qui par exemple des fois vont te dire non mais là faut que tu t'arrêtes, ou qui vont pas te presser quand ils voient que vraiment t'es un peu à bout. Donc je pense que l'entourage il fait beaucoup dans réussir à garder les pieds sur terre et réussir à faire des distinctions entre des temps de travail, des temps de fête et des temps de repos.
Justement, on va parler un petit peu de ton entourage professionnel. On a évoqué tout à l'heure l'ami Paulo Gadbaz qui lui pose sa voix sur certaines poésies, sur ses morceaux tendance ambiante. Tu peux nous en parler un petit peu, ton entourage professionnel ?
Mon entourage, c'est beaucoup mes amis de longue date. Là, il y a environ un an, j'ai rejoint le label Expity, qui du coup a été fondé par Kimberley et Karl Freud, qui est un label de musique électronique avec lequel on a organisé depuis beaucoup de soirées, beaucoup de collaborations et encore plein d'autres collaborations qu'on espère pouvoir faire écouter bientôt d'artistes, que ça soit proches de nos scènes ou des artistes internationales. Du coup, ça a été un grand pas, je pense, pour moi de rejoindre ce travail-là sur le label et du coup de voir aussi, je pense, la musique pas uniquement en tant que productrice ou DJ ou performeur, mais aussi comme personne qui va organiser des événements, comme personne qui va organiser la release d'autres projets. Du coup, cette union avec Expity, avec Kim, avec Charlotte et aussi avec Esteban, Nao et toutes les autres personnes du groupe m'a beaucoup aidé à structurer et à avancer dans ce que je faisais, même à avoir un retour, juste simplement une oreille, et aussi de personnes qui tapent sur l'épaule des fois en me disant « Non mais là, faut que tu t'arrêtes » ou genre « Ah là, c'est bien ». Enfin, l'entourage est très, très important. Ça a été l'un des choses très importantes de ces dernières années, je pense.
Question closer, pour te ressourcer, pour te sortir un petit peu la tête du guidon, c'est quoi tes sas de décompression ? Est-ce que c'est le cinéma ? Est-ce que tu fais de l'escalade ? Est-ce que tu fais du jardinage, de la cuisine ?
Alors, une partie de ce que tu dis là est vrai. Récemment, j'ai repris un peu le jardinage, vu que c'est la belle saison. Je pense que ça va être beaucoup des moments assez simples, c'est-à-dire cuisiner pour des gens, sortir avec mes potes, aller dans une soirée sans me préoccuper de me dire je joue ou je suis à l'orga. Mais ouais, je pense que ces moments-là, pour se ressourcer, même s'ils sont peu nombreux, ça va être juste des choses de la vie simple. Rien de bien flamboyant, je pense.
Les choses les plus simples, parfois, sont les plus efficaces. De ton côté, quels ont été les défis auxquels tu as pu faire face en tant que femme dans l'industrie de la musique électronique ?
Je pense que je vais sûrement donner la même réponse que beaucoup de femmes et de personnes qui sont minorisées dans les musiques électroniques, mais je pense que la première chose, c'est les représentations, c'est-à-dire en grandissant, réussir à trouver des modèles auxquels on peut s'identifier, notamment dans les musiques électroniques, des modèles qui soient pas forcément sexualisés ou plein d'autres choses. Enfin, j'étais super contente, par exemple, de trouver Lisa et Elias dans la scène hardcore et de voir à quel point tout le monde avait un respect fantastique pour elle. Ça a été des grandes révélations. Et après, au-delà de ça, la difficulté, je pense, c'est de réussir à croire en soi dans un système où des fois, vu qu'il y a peu de représentation et encore peu de place pour les femmes, ou alors juste des places pour le quota, c'est un peu compliqué de se dire que on est là vraiment pour la bonne raison et parce que les gens aiment notre travail. Donc je pense que les deux obstacles, c'était trouver des représentations et aussi réussir à se frayer un chemin et à asseoir un peu notre légitimité en tant que productrice, DJ, auprès de scènes qui sont quand même à majorité masculine.
On va parler du futur. Tu as un disque en cours de préparation.
Ouais, qui est un peu dans les tuyaux. Je suis en train de voir comment le structurer. Tout à l'heure, un peu en off, on parlait des différences qu'il pouvait y avoir entre mes productions qui sont disponibles en stream et à l'écoute et les lives que je joue. Et ce qui est assez drôle, c'est que toutes les choses que je joue en live, il y en a pas, voire très peu dans les internets. Du coup, je pense que l'objet de mon prochain disque, c'est ça, d'enregistrer un album qui regroupe un peu et les lives et des edits et plein de choses qui reprennent un peu ce travail de live que je fais depuis plusieurs années et qui est un peu introuvable et que les gens me demandent souvent en me disant « Ah, est-ce qu'on peut trouver ces choses-là, ce live ?» Ils sont pas trouvables pour l'instant, mais du coup, je suis en train de commencer à leur faire prendre une forme doucement.
Et pour les Inuits du Printemps de Bourges, tu m'expliquais également hors antenne que c'est un nouveau live que tu vas nous présenter.
Ouais, exact. Celui que j'ai joué aux auditions sera totalement différent. Je vais arrêter de jouer celui-ci et j'en ai créé un nouveau entre-temps que j'ai joué, je crois que 2-3 fois, et pas à Paris, aux alentours de chez moi. Donc j'ai hâte de le tester aux Inouïs et à tous les autres endroits où je vais pouvoir jouer ces prochains mois.
Et est-ce qu'un morceau comme Sunday, Ten Times, tu le joues encore en live ou celui-là, ça fait partie du passé ?
Bah du coup, vu que c'est un morceau, je ne l'ai jamais joué en live. En fait, tous ces morceaux-là d'album, je les ai, ceux de même Altair. Je pense qu'Altair, j'ai juste récupéré des voix de Polo pour les mettre dans le live, dont dans le nouveau, petit spoiler. Mais généralement, ce que je vais créer sur le live et ce que je vais créer sur des tracks, ça va être totalement différent. Donc Sunday Ten Times, pas entendu en live et ça n'arrivera peut-être pas.
Bah, pas entendu en live, mais entendu à la radio. Ça va arriver tout de suite après. Talita, j'ai fait le tour de mes questions. J'ai été content de pouvoir faire ta connaissance comme ça par caméra interposée.
Moi aussi.
On se retrouve le 24 avril au 22 à Bourges dans le cadre des Inouïs du printemps de Bourges. Et puis sur les réseaux sociaux, sur les internets, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Vous pouvez me retrouver sur SoundCloud, Bandcamp et Instagram. Je crois que j'ai pas d'autres réseaux de promotion.
Ah, pas TikTok ?
Non, que en tant que regardeuse, mais je fais pas de contenu.
Et bon, on s'écoute ce morceau, Sunday, Ten Times. Merci Talita, bonne soirée.
Merci beaucoup.
DJ Academy, le mag, l'interview.
D'écouter Sundays Ten Times, un morceau de Talita Otovic. Elle était en interview cette semaine dans DJ Academy. Et là, eh bien, on va accéder à la dernière partie de l'émission avec le morceau de conclusion. Disco's Revenge par Gusto, un morceau qui avait fait vibrer les pistes de danse et qui est devenu un classique indémodable de la musique électronique. Le convecteur temporel est désormais enclenché sur l'année 1995.
DJ Academy, le mag, le classique.
Et nous voici pratiquement remontés 30 ans en arrière avec un producteur américain, Edward Lee Greene, aka Gusto, un producteur qui a pensé à sampler le groove contagieux de Groovin' You de Harvey Mason, un morceau initialement sorti en 1979, et avec ce sample, il a créé ce qui allait devenir une référence, Disco's Revenge, un morceau qui a été libéré dans la jungle urbaine des clubs, c'était en février 1996, un morceau qui à l'époque sonnait comme un cri de ralliement pour les noctambules en quête de liberté rythmique. Disco's Revenge, ce n'était pas juste un titre de plus sur la playlist des DJ, c'était une véritable déclaration avec son sample en boucle et son beat entraînant. Car oui, Disco's Revenge, il a incarné l'esprit de rébellion et de la renaissance de la disco, prouvant que ce genre avait encore beaucoup à offrir. Et pourquoi ce morceau est-il devenu un classique? Eh bien parce qu'il capture l'essence même de ce qui rend la musique disco si intemporelle. L'énergie, l'unité et cette capacité à nous faire danser sans se soucier du lendemain. Disco's Revenge, c'est donc un morceau hommage à une époque où la musique était le véhicule de l'expression personnelle et collective, un temps où chaque pas de danse était un pas vers la liberté. Alors chers auditeurs, pour se quitter, on se laisse emporter par Disco's Revenge, un voyage à travers le temps et l'espace où les beats ne meurent jamais et où la fête ne s'arrête jamais.
Mag, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ animés par Stéphane Chambord. DJ Academy, le Mag.